RFI, grand reportage, Charlotte Hydrac.
Bonjour, la nouvelle route de la soie. En Chine, ce slogan est au cœur de la propagande d'État. Un projet pharaonique mis en avant comme la voie royale permettant à la Chine de conquérir le marché mondial. Ce vaste programme, aux contours encore flous, est au centre des discussions au Forum international Une ceinture, une route, qui se tient en ce moment à Pékin, en présence de 28 chefs d'État et de gouvernement, notamment le président russe Vladimir Poutine et le président turc Recep Tayyip Erdogan. La route de la soie reste rêve fou ou formidable promesse d'avenir, Heike Schmidt et Han Wu sont allés enquêter à Chongqing, une mégalopole de 30 millions d'habitants dans l'ouest de la Chine. Grande comme l'Autriche, Chongqing affiche le meilleur taux de croissance de toute la Chine. En quelques années, la ville est devenue une plaque tournante du commerce international. Ici, on mise sur la route de la soie pour se développer, notamment grâce à un train transcontinental qui relie Chongqing, la chinoise, à Duisbourg, grand port industriel en Allemagne.
Calés sur une chaîne de production, les carrosseries avancent lentement d'une équipe d'ouvriers à l'autre. Masques de protection plaqués sur le visage, les uns soudent l'habitacle, d'autres s'affairent à y installer le volant, les sièges, les freins et puis le moteur. Nous sommes dans l'usine automobile Lifan à Chongqing. Lifan, c'est 15 000 employés qui fabriquent 1 million de moteurs et 700 000 voitures chaque année. Zhang Zhuhai, bras droit du directeur général de Lifan.
Nous sommes principalement tournés vers l'exportation. Notre plus grand marché est la Russie. Avant, on exportait nos moteurs et voitures en Russie par la mer. Mais ça prenait 45 jours. Grâce au train Weixinhou, qui lie la Chine à l'Europe, le parcours a été réduit à 15 jours. Cette voie ferrée nous offre l'opportunité de trouver de nouveaux débouchés à l'étranger. D'ailleurs, nous avons déjà exporté nos produits vers un tiers des 65 pays qui participent au projet Une ceinture, une route.
Une ceinture, une route ou bien la nouvelle route de la soie, voilà une formule que la propagande chinoise vante aux quatre coins du monde comme bénéfique pour tous. Une initiative lancée en 2013 par le président chinois Xi Jinping dans un discours au Kazakhstan. Depuis, Pékin dit avoir investi plus de 45 milliards d'euros dans des voies ferrées, des ports, des autoroutes ou encore des parcs industriels à travers le monde. L'objectif, rapprocher la Chine de l'Europe et de l'Afrique par six nouveaux corridors commerciaux, terrestres et maritimes. Pékin veut ainsi faire renaître une idée vieille de plus de 2000 ans. L'antique route de la soie, celle qui permettait à l'Empire du Milieu d'acheminer ses produits vers l'Europe à travers l'Asie centrale, à dos de chameau. La renaissance de cette route de la soie se trouve désormais au cœur de la diplomatie chinoise. Tom Miller, auteur de l'ouvrage « Le rêve asiatique de la Chine ».
La Chine veut être le moteur de la croissance mondiale et un leader économique en Asie. Pour y arriver, les Chinois font donc de la diplomatie via des investissements dans les infrastructures. La Chine croit que si elle aide les autres pays à se développer, ces pays dépendront davantage de la Chine, ce qui lui permettra de gagner en influence.
Mais derrière la route de la soie se cache encore un autre objectif. Pékin y voit une solution miracle pour répondre à tous les maux de sa propre économie.
La croissance chinoise commence à ralentir et la Chine cherche de nouveaux marchés, de nouvelles opportunités à l'étranger pour ses technologies, mais aussi pour ses entreprises du bâtiment qui n'ont plus assez de projets en Chine. Un exemple, la Chine produit beaucoup trop d'acier, donc si elle peut l'exporter, cela l'aidera à réduire sa surproduction.
Zhang Zhuhai, lui, voit déjà ses voitures Lifan conquérir le monde.
Nous sommes optimistes. Nos exportations devraient croître de 25 à 30% en 2017 et aussi en 2018. Nos moteurs sont déjà exportés jusqu'en France, en Allemagne et en Italie. J'espère même que nos clients conduiront bientôt nos voitures Lifan. Grâce à la nouvelle route de la soie, les pays auront des contacts plus étroits et les entreprises ainsi que les consommateurs étrangers connaîtront de plus en plus nos produits. Cela nous aidera à exporter nos voitures, nos moteurs et les pièces automobiles.
Sur le parking de l'usine, le jeune cadre de Lifan nous montre des voitures à quatre portières, au style un peu démodé des années 80. Des modèles destinés à l'Afrique, un marché qu'on considère comme crucial chez Lifan.
C'est la 5300. Nous en avons exporté 800 en Éthiopie. Une commande du gouvernement éthiopien qui veut améliorer son réseau de taxis. En 2017, nous aurons sans aucun doute une nouvelle commande, pour au moins 800 taxis encore. Les voitures sont partie de Chongjin en bateau via le fleuve Yangtze vers le port de Shanghai. Et de là, elles arrivent par la mer au port de Djibouti.
Au lieu d'être transportées par la route depuis Djibouti jusqu'à Addis Abeba, les Lifan chinoises peuvent dorénavant y arriver en train grâce à une nouvelle ligne ferroviaire longue de 750 km construite, bien sûr, par une entreprise chinoise. De 7 jours, le temps du trajet est ramené à seulement 10 heures. Depuis son vaste bureau, au 22e étage d'un building moderne au cœur de Chongqing, Kebede Abera, consul d'Éthiopie, voit l'avenir en rose.
Nous espérons beaucoup profiter des investissements dans le cadre du projet Une ceinture, une route. C'est une opportunité pour faire des affaires. L'Éthiopie est un pays agraire, nous exportons du sésame, du café et puis du cuir, ainsi que des produits en cuir. La Chine est notre partenaire commercial numéro un, aussi bien pour l'import que pour l'export. La Chine est aussi notre plus important investisseur. L'Éthiopie est le plus grand marché africain pour les produits, technologies et investissements chinois.
Go West, aller vers l'ouest. Chongqing, une mégalopole construite à flanc de falaise au bord du fleuve Yangtze, met en pratique ce credo grâce à des milliards d'euros de subventions déversées par le pouvoir central. Pour désenclaver l'ouest de la Chine plus pauvre, Pékin compte faire de cette vibrante métropole un laboratoire de l'innovation. Li Qing, chercheur à l'Académie scientifique, en est convaincu. Chongqing sera la pierre angulaire de la nouvelle route de la soie.
Chongqing joue un rôle essentiel. Grâce aux villes situées au bord de la mer, la Chine a pu s'ouvrir au monde. Mais la nouvelle route de la soie sortira l'ouest et le centre de la Chine de son isolement. Chongqing, qui relève directement de Pékin, est désormais un pivot pour le développement de l'ouest.
Alors que la Chine affiche globalement 6,7% de croissance, Chongqing se vante d'une meilleure santé économique avec une croissance de 10,7% en 2016.
La Chine est actuellement le pays qui se développe le plus vite. Chongqing, la province chinoise qui se développe le plus vite en Chine. Cela veut dire que Chongqing est aujourd'hui le champion mondial du développement.
Qi Dan, directeur du train Chine-Europe, Usinou, estime que le train qui relie l'ouest chinois à l'Europe y est pour beaucoup.
Si on veut que les entreprises s'installent à Chongqing, il faut leur offrir des services logistiques sophistiqués. Nous sommes à 2000 km de la mer ici. Ça nous a toujours empêchés de nous développer. C'est comme ça que l'idée du train est née. C'était pour établir une connexion entre l'Europe et l'Asie. Nous avons proposé le trajet aux entreprises étrangères et elles s'y sont intéressées. Le 18 janvier 2011, on a donc lancé le coup d'essai. Avant, les entreprises étrangères ne produisaient rien d'essentiel à Chongqing. Grâce à ce train, elles sont venues s'installer. Du coup, Chongqing est devenue la tête de pont du commerce sino-européen et du développement de l'ouest de la Chine.
La gare de fret de Chongqing, point de départ du Usinou, ce train Asie-Europe qui avale 11 000 km et traverse 6 pays en 15 jours. La Chine, le Kazakhstan, la Russie, la Biélorussie, la Pologne et puis Duisbourg en Allemagne où la marchandise est déchargée. Grand bémol, ce commerce florissant reste encore en grande partie à sens unique au profit des entreprises basées en Chine. Mais petit à petit, les choses changent, insiste Wang Xu, logisticien en chef du train Chongqing-Duisbourg.
Sept trains partent d'ici chaque semaine. Chacun transporte au moins 41 containers. Quatre trains reviennent dans la semaine. Au début, les containers de retour étaient à 80% vides. Le train faisait l'aller-retour même s'il ne transportait guère de marchandises, juste pour attirer les clients. Mais depuis le printemps 2015, 80% des trains reviennent pleins.
Les wagons sont à peine déchargés que des camions sortent par dizaines de la gare ferroviaire. Une véritable caravane des temps modernes qui transportera la marchandise aux quatre coins de la Chine.
Les marchandises sont arrivées aujourd'hui. Je viens de charger mon camion pour les transporter vers Chengdu. Selon ce document des douanes, ce sont des produits suédois, partis de Duisbourg en Allemagne. Des pièces automobiles. J'attends mon collègue avec les papiers de la douane et puis nous partirons directement à Chengdu. C'est 6 heures de route. Je décharge ma cargaison dans la zone franche et puis les produits seront distribués aux usines de la région pour assembler des voitures.
Mais il n'y a pas que les pièces automobiles qui prennent le train. Liu Zhongbao a, lui, découvert la voie ferrée pour faire voyager une marchandise bien plus fragile. Des verres à soie.
En 2013,
grâce au commerce en ligne, j'ai trouvé des clients en Asie centrale, au Turkménistan, en Ouzbékistan et d'autres pays encore. Je leur fournis des œufs pour élever des verres à soie. Ces œufs ont fait leur premier voyage par avion. Mais à partir de 2014, j'ai opté pour le train. Comme le transport par avion coûte plus cher, le train est une bonne solution. Je réduis les frais de transport de 60%. Le bateau, ce n'est pas possible, car les verres à soie sont trop fragiles. Il faut les livrer à destination en moins de 10 jours. Les 6 jours que met le train sont donc parfaits. Il y a des milliers d'années, la Chine exportait déjà des produits en soie. Aujourd'hui, je transporte des œufs de verre à soie par cette même route de la soie.
Visite guidée dans la gare de fret avec Wang Xu, chef des opérations ferroviaires.
Ici, c'est le quai de départ du train de Wuxino. Quatre trains peuvent partir en même temps. Ils sont remplis à 40% avec des ordinateurs fabriqués ici, dans les deux zones franches de Chongqing. Pour le reste, il s'agit de marchandises venant de Shanghai, Chengdu ou Shenzhen. Des produits chimiques, des équipements, des pièces de machines ou encore du café. Le tout est exporté vers l'Allemagne, puis distribué en Italie ou encore aux Pays-Bas. Dans les trains qui reviennent, on trouve surtout des produits fabriqués en Allemagne, comme des voitures de luxe Audi et BMW. Sinon, du lait en poudre et de la bière, et aussi du vin français.
À quelques encablures de la gare de fret, des bulldozers terrassent les derniers champs pour faire place à un énième parc logistique. Un investissement de plus de 6 milliards d'euros, nous dit Zhu Yuan, directeur adjoint.
Plus de 600
entreprises avec leurs 30 000 employés sont installées dans ce parc. C'est la grande plateforme du commerce extérieur de Chongqing. Ici, on ne paye pas de droits de douane sur les biens importés ni d'impôts sur les biens exportés. D'ailleurs, toutes les entreprises à Chongqing ne payent que 15% d'impôts, alors que dans le reste de la Chine, le taux d'imposition est de 25%.
Des avantages fiscaux censé attirer des entreprises dans le sillage des géants de l'informatique déjà installés à Chongqing. Hewlett Packard, Foxconn, Acer, mais aussi Asus, Toshiba et Sony, affirme l'économiste Li Qing.
Avant 2010, Chongqing ne fabriquait pas un seul ordinateur. Aujourd'hui, nous en produisons 60 millions par an. Un ordinateur sur trois vendu dans le monde vient d'ici. Grâce au commerce extérieur, facilité par la liaison ferroviaire, Chongqing a pris son envol. Les 5 plus grands fabricants d'ordinateurs du monde sont installés ici. Le train Chine-Europe était le meilleur moyen de convaincre les entreprises étrangères de s'installer à Chongqing.
Le train, mais aussi des salaires plus bas que dans les zones côtières, ont attiré les entreprises. Aucun des géants de l'informatique n'a souhaité nous ouvrir les portes de ces chaînes de fabrication situées dans la banlieue industrielle de Chongqing. Les ouvriers, eux, sont plus bavards. À la sortie d'usine, Yao Ming, jeune cadre chez Foxconn, se détend sur le terrain de basketball avec ses camarades.
Foxconn produit essentiellement des ordinateurs et des imprimantes pour Hewlett-Packard. Je m'occupe de la logistique. Je sais que nos produits sont exportés par le train rapide vers l'Europe. Beaucoup d'ouvriers sont revenus des villes côtières comme Shenzhen ou Suzhou pour travailler ici. On est 40 000 employés. La plupart habitent dans des dortoirs. Les ouvriers gagnent en moyenne 330 euros et les diplômés dans les 530 euros par mois.
Yang Mingwen, jeune ouvrier de 23 ans en jean et basket, les cheveux coupés en brosse, est venu de la province de Sichuan. Il n'en peut plus des 72 heures de travail par semaine.
Je travaille sur la chaîne de moulage pour les coques d'imprimantes. On croule sous les commandes, les pièces s'accumulent sur ma table de travail. Je travaille 6 jours sur 7, la nuit, de 20h du soir à 8h du matin. L'usine fonctionne 24 heures sur 24. Tout le monde dit que les salaires sont très bas. Je gagne 400 euros par mois, mais je dois en payer 130 pour les assurances et 13 pour ma chambre dortoir. Nous y partageons une petite pièce de 20 mètres carrés à 8 ouvriers. Et puis je dois encore payer 13 euros pour l'eau et l'électricité.
Yang Mingwen perçoit un salaire qui lui permet d'aider sa famille. Il ne l'a pas encore avoué à ses parents, mais il a décidé de démissionner.
Si je suis fatigué et que je ne veux pas faire d'heures supplémentaires, je dois demander l'autorisation à mon supérieur. S'il refuse, je n'ai pas le choix. Je sais que nombre d'ouvriers de Foxconn se sont suicidés. J'ai travaillé dans leur plus grande usine avec 400 000 ouvriers dans le Henan. Un matin, je suis arrivé au travail et on m'a dit qu'un collègue avait sauté d'un bâtiment. Ça ne vaut pas la peine.
Yang Mingwen a entendu parler de la route de la soie, mais pour lui, elle est loin d'être une promesse d'avenir. Chongqing, une mégalopole à la croissance folle, grâce à ses ordinateurs fabriqués à bas coût, envoyés vers l'Europe. Mais les plus audacieux ne s'arrêtent pas là. Ils se sont déjà lancés dans une nouvelle aventure, celle de bouleverser le marché mondial du café. Si l'on en croit ce film promotionnel, Chongqing se hissera bientôt au troisième rang mondial des bourses de café derrière New York et Londres. Pourtant, aujourd'hui, la ville ne produit pas une seule graine de café. Zheng Zhe, sourire jovial et de l'audace à en revendre, n'y voit pas d'inconvénient. Le président du conseil de surveillance de la bourse de café en est convaincu. Chongqing ne tardera pas à décoller.
Le train Huxino part d'ici, passe par le Xinjiang et arrive en Europe. Puis il y a la voie fluviale, ainsi que le train qui lie les zones de plantation de café au Laos, en Birmanie ou dans le Yunnan. Notre but est de devenir la plaque tournante mondiale du commerce de café pour toute l'Asie et même au-delà.
La Chine se rêve déjà nombril du monde, ou tout au moins grande puissance asiatique. Et elle ne lésine pas sur les moyens pour mettre en œuvre son plan Marshall à la chinoise. Pékin a doté son nouveau fonds pour la route de la soie de 35 milliards d'euros. Et la nouvelle banque asiatique d'investissement pour les infrastructures, avec ses 70 membres, dispose, elle, d'un capital de 92 milliards d'euros. Pendant ce temps, à Chongqing, les 100 000 bang bang, ces forçats du transport à l'ancienne, n'ont pas le temps de rêver des bienfaits d'une route de la soie. Ils n'ont que leurs jambes pour transporter les marchandises calées sur leur dos courbé. Ils parcourent les ruelles à travers une forêt de gratte-ciel pour un salaire de misère.
Chongqing s'est rapidement développé, mais ce n'est pas pour autant que ma vie s'est améliorée. Je ne profite en rien de ce développement. C'est dur, surtout pour les personnes âgées. J'arrive. J'ai du boulot, je vais porter des sacs de riz là-haut.
Sur ce, le vieux tâcheron au visage buriné et au pantalon élimé se charge 100 kilos de riz sur les épaules et entame sa longue montée. Arrivé en haut de la colline, la patronne d'un restaurant lui payera 6 yuan, soit à peine 1 euro. La nouvelle route de la soie, rêve fou de Pékin ou promesse d'avenir. Un grand reportage à Chongqing de Heike Schmidt et de Han Wo-Wu. Réalisation Nicolas Benita.